Radio Okapi.
Avant de vous dérouler ce journal, d'abord les titres. Un week-end calme à Rutshuru, à Masisi et à Nyiragongo, Nord-Kivu, où aucun coup de feu n'a été entendu de part et d'autre. Cependant, les notables des zones occupées par les rebelles du M23 et l'armée rwandaise déplorent l'aggravation de la situation humanitaire et socio-économique. Au Maïndombe, plus de 1000 assaillants armés se sont rendus à la commission de pacification du Grand Bandundu. Objectif affiché, restaurer la paix dans ces territoires en proie au conflit communautaire entre les Teke et les Yaka, un conflit qui a coûté la vie à plus de 200 personnes. Notre invité, c'est le chef d'antenne du PDDRCS, Béni, Maître Omar Kavota, parle de l'évolution des activités de ce programme depuis 4 mois et des défis à relever dans cette région en proie aux groupes armés. Madame, messieurs, bonsoir. En Ituri, un sac supposé contenir un agent explosif a été détruit hier samedi après-midi au marché central de Bounia par une équipe du service de déminage de la MONUSCO. Selon la police nationale, l'engin s'est trouvé dans un sac à main abandonné par un inconnu, ce qui a permis la reprise des activités qui étaient paralysées depuis 48 heures. Cependant, une psychose s'observe. Les marchands demandent au service de sécurité de renforcer davantage la surveillance en vue de préserver des vies humaines. À Bounia, le récit d'Isaac Rémoyopé.
Une panique était observée le vendredi au marché central de Bounia suite aux rumeurs d'un engin explosif qui se trouverait dans un sac à main abandonné par un inconnu sur un étalage. De nombreux marchands ont fui en abandonnant leurs biens. Certains ont été blessés et d'autres ont perdu leurs marchandises et de l'argent. Alertés, les services de sécurité sont descendus sur les lieux pour sécuriser la zone en attendant une équipe d'experts pour identifier le contenu du sac. Selon le commandant de la police en ville de Bounia, après analyse, c'était un engin explosif de fabrication locale, lequel a été détruit samedi par les services de déminage de la MONUSCO, le colonel Abeli Mwango.
De nos analyses faites, il s'agit probablement d'un engin artisanal ou de fabrication locale contenu dans un objet en plastique. Les éclats sont composés de quelques clous, morceaux de fer, fils électriques et autres matériels ont été ramassés sur le lieu par nos services. Ces objets ramassés seront remis à la police scientifique pour analyse.
Pour la MONUSCO, il est difficile de déterminer pour l'instant si c'est sac à main qui a été détruit contenait un engin explosif ou pas en attendant les résultats des études sur ses composantes. Malgré la destruction de cet engin, une psychose s'observe encore au marché. La population marchande déplore l'absence des dispositifs de détection des engins explosifs, ce qui expose plus de 10 000 personnes qui fréquentent chaque jour ces lieux publics. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Non loin de là, au nord Kivu, un engin explosif piégé par des inconnus a été découvert hier à Mbaou, village situé à environ 25 km de la ville de Béni. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, cet engin a été enfoui dans l'enceinte d'une école de la place. Le capitaine Anthony Mwalushai indique que des experts du service de antimine de la MONUSCO, des FARDC et de la police nationale ont réussi à évacuer l'engin avant de le détruire, tout en félicitant les habitants de la zone qui ont alerté sur la présence de cet engin de la mort. Cet officier des FARDC les invite à la vigilance tous azimuts. Nord-Kivu encore, face aux menaces des engins explosifs improvisés à Béni, la MONUSCO appelle la population à faciliter le passage à ses équipes qui se déploient pour sauver des vies humaines. Appel lancé hier samedi après-midi lors de l'échange de vœux de Nouvel An avec des professionnels de médias de la ville. À une question sur l'appui de la MONUSCO dans la lutte contre des bombes artisanales, le chef de bureau adjoint de la MONUSCO, Béni Boutembo et Loubero, a exhorté les habitants à faciliter la tâche aux équipes de la mission onusienne qui interviennent sur le terrain. Abdourahmane Ganda est au micro d'André Kitenge.
Je voudrais en profiter pour lancer un appel à la population. Deux appels. Le premier, selon les informations que nous avons reçues et que nous avons partagées, qui étaient déjà en possession des autorités, il y a d'autres bombes qui sont en circulation. Et comme vous l'avez remarqué, même ce matin, à Mbao, à l'entrée d'une école, vous vous rendez compte, à l'entrée d'une école. Donc, nous appelons la population à la vigilance. Il y a des objets, quand on les voit, évitez de les toucher. On a lancé une campagne, faites-en une large diffusion. La deuxième chose, nos équipes se déploient dans des situations extrêmement difficile et urgente, faciliter leur le passage. C'est pour sauver des vies. La dernière fois, elles étaient parties à ma campagne. Au retour, il y a des gens qui les ont caillassées. Ce sont des gens qui prennent beaucoup de risques pour sauver d'autres vies. Quand vous les voyez, s'il vous plaît, facilitez leur le passage. C'est pour sauver la vie de nos frères et sœurs.
Dans un autre chapitre, un week-end calme sur toutes les lignes de front dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, Nord Kivu. Les sources concordantes affirment qu'aucun coup de feu n'a été entendu ce dimanche matin de part et d'autre. Les mêmes sources indiquent que toutes les forces en présence maintiennent leur position. Cependant, les notables des zones qui sont occupées par les rebelles du M23 et l'armée rwandaise déplorent l'aggravation de la situation humanitaire et socio-économique. De leur côté, les organisations humanitaires nationales et internationales se disent justement préoccupées par la situation des milliers de personnes en danger dans le Nord Kivu en raison des violences armées. Selon un communiqué de presse parvenu à Radio Okapi aujourd'hui, plusieurs personnes ont été prises en étau lors des actes de violence armée perpétrés dans les localités de Kichanga, en territoire de Masisi, et à Kishishe, dans celui de Rutshuru, les obligeant ainsi à fuir leur domicile. C'est un reportage de Jeff Ngoy.
Plusieurs personnes menacées par des individus armés ont trouvé refuge dans et autour d'une base de la MONUSCO à Kichanga. Les récentes violences nous rappellent une fois de plus l'importance de protéger les civils et les infrastructures civiles, déclare Bruno Lomarki, coordonnateur humanitaire en RDC. La poursuite des menaces qui pèsent sur la population restreint considérablement à la fois la capacité de la population civile à se déplacer pour échapper à la violence ainsi que la capacité des organisations humanitaires à accéder aux personnes vivant à Kichanga et dans les localités voisines. J'appelle donc toutes les parties au conflit à épargner à la population concernée les souffrances causées par les violences et leur demande de respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire en permettant à la population de se déplacer en toute sécurité et sans restriction jusqu'à ce que le calme revienne à Kichanga, poursuit-il. En attendant, l'accès à l'assistance humanitaire reste primordial pour sauver des vies. À cet effet, le rôle des autorités congolaises est essentiel pour garantir l'acheminement et le déroulement des opérations humanitaires, peut-on ainsi noter.
Merci Jeff Ngoy pour ces reportages. Notez qu'à ce jour, le Nord Kivu totalise 30 ans d'insécurité, de conflits armés, d'atrocités, de viols, de massacres, de déplacements des habitants, des violations des droits humains, d'exploitation illégale des ressources naturelles et de destruction de l'environnement. Des souvenirs parfois difficiles à se rappeler. Ce tableau sombre est dépeint par l'élu du territoire de Walikale, Prince Kihangi Kiamwami, interpelle tout ce qui contribue à la déstabilisation de cette province et d'arrêter ses velléités et de donner la chance à la paix et aux jeunes. On l'écoute.
Depuis 1993 jusqu'à ce jour, les populations de la province du Nord Kivu traversent un calvaire. La population n'a pas connu de repos ou de paix réelle, si ce n'est l'intervalle entre deux conflits. C'est en effet une génération sacrifiée. Nous célébrons donc ce jour un anniversaire douloureux pour la province du Nord Kivu. J'ai saisi cette occasion pour demander à tous ceux-là qui sont impliqués dans la déstabilisation de la province du Nord Kivu à bien vouloir accepter de donner la paix à la population de la province du Nord Kivu, donner la chance à cette population de contribuer au développement de la République démocratique du Congo et de promouvoir l'épanouissement de la jeunesse de la province du Nord Kivu. À tous les acteurs négatifs dans cette situation, à bien vouloir abandonner cette voie de prise d'armes illégales. Le temps de la paix est arrivé pour que la province du Nord Kivu vive aussi la paix comme toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo.
J'ajoute que le député provincial Prince Kihangi met le gouvernement congolais devant ses responsabilités de protéger les habitants et de créer en même temps un fonds spécial destiné aux jeunes pour leur auto-prise en charge. Insécurité également dans les territoires de Kwamout au Maïndombe. À ce jour, plus de 1000 assaillants armés se sont rendus à la commission de pacification du Grand Bandundu, une commission pilotée par les grands chefs coutumiers Fabrice Kavabioko. Objectif affiché, restaurer la paix dans ces territoires avec une délégation d'autres chefs coutumiers, Teke et Aka, deux communautés en conflit depuis juin 2022, un conflit qui a coûté la vie à plus de 200 personnes. Le chef de cette délégation affirme qu'à ce jour, la paix est restaurée à au moins 75% dans le Kwamout. À Bandunduville, Irène Mboma.
En mission de pacification dans les territoires de Kwamout au Maïndombe, les grands chefs coutumiers Soukou, les rois Minikongo, qui conduit la commission composée des chefs coutumiers Teke et Yaka, dépêchés selon lui par les chefs de l'État, a séjourné jeudi à Bandundu, chef-lieu du Kwilu, pour se rendre personnellement compte de la situation des déplacés accueillis dans cette ville. À l'occasion, il a fait savoir que cela fait plus de 4 mois que lui et sa délégation sont dans la forêt à Kwamout pour sensibiliser les assaillants appelés Mobondo, aux terres des violences qui ont éclaté dans cette partie du pays. Il affirme qu'à ce jour, plus de 1000 assaillants se sont déjà rendus auprès de la commission. Avant de venir ici, j'ai été en forêt pour sortir nos enfants qui s'étaient enfouis dans la forêt pour commettre ces atrocités. Déjà, la paix est rétablie à 75% dans les territoires de Kwamout. J'ai déjà sorti plusieurs assaillants de la forêt et ils ont remis des armes. Pour l'instant, déjà plus de 1000 assaillants sont sortis. Ceux qui sont restés, on se bat pour les faire sortir également. Pour sa part, Martin Souta, vice-président de la société civile de Kwamout, confirme que les affrontements ont cessé, mais il y a encore l'insécurité. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
On en vient maintenant à l'actualité politique avec l'identification et l'enrôlement des électeurs pour la deuxième ère opérationnelle. En effet, les Congolais vivant en Afrique du Sud qui ont déjà reçu leur carte d'électeur se disent satisfaits d'avoir rempli ce devoir civique, ce qui leur permettra ainsi le jour venu de choisir les nouveaux dirigeants congolais capables de changer le pays. Grâce à Mzati, notre envoyé spécial à Pretoria a rencontré quelques-uns ce week-end à l'ambassade de la RDC où se déroule effectivement cette opération. Voici ces notes de reportage.
Ces Congolais trouvés à l'ambassade sont venus des différentes villes de l'Afrique du Sud. Ayant obtenu leur carte d'électeur dans un temps record, ils appellent les autres à emboîter le pas en vue de participer aux élections prévues au mois de décembre de cette année. Suivez ici tour à tour Ladislas, Melissa et Elvis qui donnent leurs impressions.
En tout cas, mon impression est vraiment satisfaisante puisque c'était fait dans un temps record. Moi, je me suis déplacé de Cape Town. Justement, je suis venu accomplir mon devoir patriotique puisque c'est en ayant la carte qu'on a le droit de voter et de décider qui sera le futur leader ou dirigeant de notre pays.
Je viens de Johannesburg. Je suis jeune congolaise et j'aimerais bien participer à l'évolution de mon pays. Alors, j'aimerais bien que ma voix aussi compte parmi le choix du futur président ou ceux qui pourront gouverner notre pays. Et là, je suis à l'ambassade, je peux témoigner que c'est bien réel.
Je suis très content déjà qu'ils ont pensé aussi à nous, ici en Afrique du Sud. Ça, c'est une bonne chose, c'est un pas. Et nous espérons à des élections qui seront honnêtes parce que nous voulons vraiment voir un pays meilleur. Des dirigeants qui vont répondre aux besoins du peuple.
Jusque là, aucun souci majeur n'a été signalé, affirme pour sa part le professeur Ferdinand Kapanga, qui conduit l'équipe de la CENI ici en Afrique du Sud. De Pretoria, Grâce Amzati Masanzi, Radio Kapi.
Après la visite du pape François cette semaine ici à Kinshasa, les évêques membres permanents de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, remercient le président Félix Tshisekedi pour avoir invité le Saint-Père en RDC et pour son implication dans les préparatifs de cette visite. Il remercie également tous les fidèles catholiques pour l'accueil lui réservé, le Premier ministre et son gouvernement pour leur implication dans la réussite de l'événement qui a fait la joie de tous les Congolais. 38 ans après la visite du pape Jean-Paul II, selon le secrétaire général de la CENCO, c'était au cours d'un point de presse tenu ce dimanche au lendemain de l'Assemblée générale des évêques de la CENCO. C'est ce que nous explique Monseigneur Donatien Cholet au micro de Jeff Ngoy.
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Nous, cardinal, archevêque et évêque, membres de la CENCO, nous saisissons cette occasion pour remercier nos fidèles qui ont répondu répondu massivement à notre appel à se mettre en prière pour la réussite de cette visite apostolique. Nous exprimons notre gratitude particulièrement à Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, d'avoir adressé l'invitation à Sa Sainteté le Pape François pour visiter la RD Congo et pour son impulsion et implication dans les préparatifs de l'accueil du Saint-Père. Nous exprimons aussi notre grande reconnaissance à Son Excellence Monsieur le Premier ministre et à tous les membres du gouvernement congolais ainsi qu'aux autorités politico-administratives de la ville de Kinshasa.
Prenons cette autre nouvelle qui vient de nous parvenir il y a quelques secondes. Un hélicoptère de la MONUSCO qui a décollé de Beni au Nord Kivu cet après-midi à destination de Goma a essuyé des tirs ayant entraîné la mort d'un des membres d'équipage et gravement blessé un autre casque bleu. L'appareil a néanmoins réussi à atterrir à l'aéroport de Goma. La mission onusienne exprime ses plus sincères condoléances à la famille et au pays d'origine du casque bleu décédé. La MONUSCO condamne fermement cette attaque lâche contre un aéronef porteur de l'emblème des Nations Unies. La MONUSCO rappelle que les attaques contre les casques bleus peuvent constituer un crime de guerre et qu'elle ne ménagera aucun effort en accord avec les autorités congolaises pour que les auteurs de cet acte odieux soient traduits en justice.
Actualité internationale.
Le pape François a achevé ce dimanche sa visite au Soudan du Sud et regagné le Vatican. Le Saint-Père a décollé de l'aéroport international de Djouba aujourd'hui à 11h30, heure locale, après avoir célébré la messe au mausolée de John Garang. Ce pèlerinage du pape François pour la paix a commencé vendredi en compagnie de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et le modérateur de l'église d'Écosse qui se sont joints au souverain pour encourager la résolution des conflits dans le plus jeune pays au monde.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef d'antenne de PDDRCS, Beni au Nord Kivu, Maître Omar Kavota, parle de l'évolution des activités de ce programme depuis 4 mois, mais aussi des défis à relever dans cette région en proie aux groupes armés. Il s'entretient avec André Kitenge.
Maître Omar Kavota, bonjour.
Bonjour.
4 mois depuis que vous avez été installé ici à Beni, comment évolue le processus de PDD-RCS ici à Beniville et Beni Territoire?
Il est vrai que nous avons été nommés par décision du coordonnateur national du PDD-RCS depuis le 1er octobre de l'année 2022. Nous nous sommes mis au travail sur l'instruction du coordonnateur national du programme. Et dans le premier temps, nous avons travaillé sur notre plan d'action stratégique. C'est ce plan d'action qui ajoutait au plan d'action d'autres territoires constitue ce que nous appelons le plan opérationnel provincial. Mais au-delà de ce plan d'action sur lequel nous avons travaillé au niveau de l'antenne pour que nous puissions apporter notre propre vision en rapport avec les défis de notre zone dans les POP, nous avons travaillé sur une sensibilisation de la communauté dans le cadre de former les différentes couches de la population sur les fondamentaux du programme. Mais comme vous le savez, la principale activité quant à la communauté au vu des défis qui sont les nôtres dans notre zone, c'est le désarmement et la démobilisation. Et nous attendons que les DD, c'est-à-dire le désarmement et la démobilisation, soient formellement lancés par l'autorité du programme en collaboration avec le ministère de la Défense. Et il est possible que tout cela soit réalisé au cours déjà de ce mois de février pour que les combattants qui traînent encore les pieds et qui attendent que nous puissions les accueillir viennent.
Vous voulez dire que rien n'a été fait encore jusque-là avec les différents groupes armés?
Alors, nous disons que nous ne les avons pas encore appelés à venir parce que nous devrions préparer les cadres. Et à notre niveau, ce cadre, la préparation du cadre d'accueil est presque terminée. Mais comme c'est l'autorité nationale et l'autorité du programme qui doivent lasser formellement le go. Nous attendons donc ce moment et je crois que c'est une affaire des jours pour que nous puissions appeler formellement le groupe qui attendent impatiemment à venir. Nous voudrions que effectivement ces groupes viennent pour les désarmements et la démobilisation avant que nous puissions les réinsérer dans la communauté, étant donné que notre programme a une approche communautaire.
Quels sont les défis à relever dans le Grand Nord, notamment où il y a beaucoup de groupes armés qui écument la région, mais aussi les priorités de votre action sur terrain?
En termes de défis, c'est que nous pouvons noter que le programme a traîné un peu parce que l'attente est exprimée de manière grande. Il y a déjà des groupes armés qui annoncent leur intention, leur désir de venir rejoindre le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Malheureusement, c'est comme si c'est à notre niveau que nous traînons pour que ces gens puissent venir. Donc ça, c'est un défi, mais un défi qui est déjà relevé parce que au niveau de notre coordination, les moyens sont déjà disponibles. Ils n'attendent que donner le go pour que tous ces groupes armés viennent. Et notre défi résulte aussi de ce qui a été observé comme pourparlers à Nairobi.
C'est quel message lancez-vous aux différents groupes armés par rapport à ce processus de PDDRCS?
Nous disons que le PDDRCS, c'est le programme de la communauté pour stabiliser cette zone. Nous voudrions donc que toutes les couches de la population, tous les groupes armés s'approprient ces programmes de manière à contribuer au retour de la paix, de la sécurité dans cette zone. Nous savons que nombre d'entre ces groupes ont attendu, mais l'heure est déjà venue et nous allons donc nous employer à pouvoir les accueillir et nous pensons que au-delà des efforts militaires qui sont consentis, le PDDRCS, s'il est accepté par la communauté, par les groupes armés, peut arriver à contribuer efficacement au retour de la paix, au retour de la restauration de l'autorité de l'État et de la stabilisation de notre milieu.
Maître Omar Kavota, je vous remercie.
Merci à Radio Okapi.
C'était donc l'invité de Radio Okapi, le chef d'antenne du PDDRCS, Béni Honor Kivu. Maître Omar Kavota a été interviewé par André Kitenge. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Noël Aluzitu Kabambi qui m'a accompagné.